à tous, voici l'émission de l'Église protestante unie de Chartres-Beauce-et-Perche, animée par Marie-Christine de Vels. Simon Martin est à la technique et je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir Adboussiko Menera, qui est conseillère presbytérale dans notre paroisse et qui va nous parler aujourd'hui de la femme adultère. Bonjour Anne.
Bonjour Marie-Christine. L'histoire de la femme adultère traînée devant Jésus pour voir ce qu'il en fera est une histoire archi-célèbre. En effet, quantité de livres ont été écrits là-dessus et quantité de tableaux l'ont prise pour sujet. Alors peut-être vous dites-vous encore cette histoire, mais on la connaît par cœur. Ces versets attribués à Jean ne seraient peut-être pas de lui, mais de Luc. On les trouve dans plusieurs manuscrits lucaniens et les plus anciens manuscrits de Jean ne comportent pas ce passage. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le texte nous est présenté comme partie prenante de l'évangile de Jean et il n'apparaît que chez Jean. Marie-Christine va donc nous lire le texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, les versets 1 à 11.
Et Jésus gagna le mont des Oliviers. Dès le point du jour, il revint au temple, et comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens amenèrent alors une femme qu'on avait surprise en adultère, et ils la placèrent au milieu du groupe. « Maître, lui dirent-ils, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi, Moïse nous a prescrit de lapider ces femmes-là. Et toi, qu'en dis-tu ? » Il parlait ainsi dans l'intention de lui tendre un piège pour avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol. Comme il continuait à lui poser des questions, Jésus se redressa et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Et s'inclinant à nouveau, il se remit à tracer des traits sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils se retirèrent, l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, et Jésus resta seul. Comme la femme était toujours là, au milieu du cercle, Jésus se redressa et lui dit « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamnée ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. »
Ce texte dérange, et il a dérangé dès le début de l'écriture des évangiles. On pourrait en effet y voir un exemple d'indifférence morale, une forme de laxisme de la part de Jésus-Christ. La plupart des traductions et éditions de Bible donnent pour titre à ce passage « La femme adultère ». Mais ce titre nous invite à une seule interprétation possible, une seule manière de voir ce texte, comme s'il n'y avait qu'un seul personnage dans cette histoire. Dans ce cas soumis à Jésus, il est précisé que la femme a été prise en flagrant délit. Donc, il n'est pas question de discuter la réalité de son acte. Évidemment, nous qui vivons au XXIe siècle dans le monde occidental, et pour moi qui suis féministe, nous ne pouvons pas faire autrement que de nous demander où sont les hommes dans cette histoire. Les textes hébraïques indiquent que les deux amants devaient être mis à mort par lapidation. Où est alors l'homme adultère, qui a dû être pris aussi en flagrant délit, comme Georges Brassens de manière humoristique et provocante le dit dans sa chanson « Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière ». Mais aussi, où est le mari trompé, qui logiquement serait le plus offensé par l'affaire, bien davantage que les scribes et les pharisiens qui en profitent pour tenter de piéger Jésus? Et qui les a pris en flagrant délit? Le texte ne répond à aucune de ces questions, comme il ne répond pas non plus à la question qui hante les chrétiens qui l'entendent depuis 2000 ans. Mais qu'est-ce que Jésus a bien pu écrire par terre? C'est donc que tout ça n'est pas vraiment le sujet de ce qui se passe au temple ce jour-là. Une femme surprise en flagrant délit d'adultère est traînée jusqu'à Jésus. On a bien compris que c'est pour tendre un piège à Jésus qu'on lui a amené cette femme. Ce n'est pas tant la femme qui est l'accusée que Jésus lui-même. La tension dramatique de ce texte tient à ce que c'est la seule fois dans les quatre évangiles où de l'attitude de Jésus dépend non seulement sa propre vie, mais aussi la vie ou la mort d'une autre personne, en l'occurrence de cette femme. Car Jésus est pris au piège. Soit il défend la femme et méprise la loi de Moïse, ce qui donne à ses adversaires un argument pour le condamner lui à mort, soit il se rend complice de la lapidation de cette femme. De quel côté es-tu ? Es-tu, toi qui parles si bien, du côté du Dieu de Moïse, ou pas ? On voit bien la mauvaise foi. Foi dans ce qui a les apparences irréprochables de la loi, mais qui ne fait que masquer l'hypocrisie, la haine, la vengeance, le désir de domination, la soif de se sentir parmi les privilégiés, du bon côté. De quel côté es-tu ? Du bon ou du mauvais ? On est au cœur du drame qui amènera Jésus à la croix, la confusion de la loi et de la foi, ou de la loi et de la grâce. La pureté officielle n'est jamais qu'un moyen de prendre de l'ascendant, du pouvoir sur les gens. Quand on ramène la foi à la loi, quand on se sert de la loi pour établir une supériorité légitime par rapport aux autres, on est dans la mauvaise foi. C'est pourquoi on ne s'occupe pas des hommes concernés par l'affaire. Ce n'est pas de cela qu'il est question ici. Ce qui se passe dans cette histoire est étonnant. La femme est au milieu, mais ça n'est pas elle non plus, dont on s'occupe vraiment. Si on représentait ce récit comme une partie de ping-pong, la femme serait le filet. Les spectateurs comme le lecteur ne peuvent avoir Dieu que pour les joueurs, scribes et pharisiens d'un côté, Jésus de l'autre. On imagine sans peine l'agitation de la foule, l'excitation des accusateurs que le texte suggère plus qu'il ne décrit. Par contraste, Jésus est d'un calme olympien. Il ne se laisse pas happer par l'hystérie collective. Il ne regarde ni la femme, ni les accusateurs, ni les disciples, ni ceux qui étaient venus l'entendre enseigner. Peut-être fait-il simplement comme nous quand nous griffonnons n'importe quoi sans réfléchir pour échapper à une atmosphère étouffante ou nous évader loin de l'ennui. Il porte son regard à terre, pour marquer sa distance par rapport à la violence environnante, et ce faisant, il y entraîne le regard de tous, y compris celui du lecteur d'aujourd'hui. Il répond au silence de la femme par son propre silence, comme pour pousser ses interlocuteurs à s'interroger eux-mêmes, à formuler leurs propres réponses, et nous avec eux. Il se baisse et trace des traits sur le sol, Ainsi, la femme reste dans la position du filet. Puis, comme ils insistent, d'une balle décisive, il renvoie ses adversaires complètement en dehors de la zone de jeu, à leur conscience. Il n'entre pas dans la polémique, il ne discute pas la loi telle qu'elle a été énoncée par les scribes et les pharisiens. Il ne donne pas non plus une réponse théorique et argumentée telle qu'ils l'attendent sans doute. À ceux qui veulent appliquer la loi avec rigueur, il renvoie cette rigueur sous forme d'appel à l'examen de conscience. Il lance une parole qui désolidarise le groupe des vengeurs en s'adressant à chacun comme individu. La phrase de Jésus et son attitude sont d'une redoutable efficacité pour mettre chacun devant ses responsabilités. Car s'il est facile de suivre le mouvement, d'agir en mimétisme, de lancer une pierre quand les autres en lancent aussi, il est très difficile d'être le premier à se conduire de cette manière violente. L'attitude de Jésus est un appel à prendre l'espace, le temps, la liberté de se juger soi-même avant de juger les autres et d'entrer dans le chemin du pardon. Puis il se penche à nouveau et dessine. L'énigme de ce que Jésus écrit reste entière. Sans doute se penche-t-il de nouveau pour que le centre de l'attention ne soit pas une opposition entre lui et les accusateurs. Comme au verset 6, il ne regarde pas ses adversaires pour ne pas avoir l'air de les juger ou de les défier, pour qu'ils puissent partir la tête haute sans perdre la face. La partie est alors terminée et les accusateurs s'en vont l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés. L'auteur veut-il suggérer que les plus âgés ont eu le temps de pécher davantage, ou bien qu'ils sont plus conscients d'être pécheurs ? C'est maintenant que l'essentiel va intervenir. Car à partir de ce moment-là, la femme n'est plus juste le filet, mais a le droit de jouer une autre partie, sa propre partie. Elle reste, elle ne part pas. Pourquoi ? Le texte nous dit que Jésus resta seul. Que signifie ce seul ? Car en réalité, il n'est pas seul, bien sûr, il y a la femme. Peut-être que pour l'auteur de l'Évangile, Jésus est le seul à pouvoir condamner. Saint Augustin a écrit à ce sujet une très belle phrase. Deux sont restés, la misère et la miséricorde. Jésus se redresse et lui adresse la parole. Jusque-là, on parlait de la femme, mais lui parle à la femme et il lui donne la parole. D'objet qu'elle était, objet d'un litige en fait destiné à piéger Jésus, elle va devenir sujet, sujet de sa propre vie, sujet de son avenir. C'est le moment de la rencontre entre la femme et Jésus. Il ne lui demande rien sur ce qu'elle a fait. Il valide la situation telle qu'elle est à ce moment-là. D'une question, « Personne ne t'a condamné ?» il lui permet de prendre acte de sa libération d'une condamnation quasi certaine. En effet, il est important que ce soit elle-même qui constate le retrait de la plainte, l'abandon de la procédure par le départ de tous ceux qui la poursuivaient. Il est important que ce soit en somme elle-même qui prononce la relaxe. Par ce geste, elle peut reconnaître à la fois sa culpabilité et son pardon. Moi non plus, je ne te condamne pas. Entendez bien qu'il ne dit pas « je te disculpe », ce qui reviendrait à tenir l'offense pour non avenue, or ici la faute est reconnue et évidente. Il ne dit pas non plus « je te gracie », c'est-à-dire « je remets la peine qui a été prononcée », mais « je ne te condamne pas », c'est-à-dire « je ne te frappe d'aucune peine ». D'un mot d'envoi, il lui signifie sa liberté de mouvement. « Va !» alors qu'elle était immobile, prise au piège. Elle a été traînée ici, elle en repart librement, debout. Et ce n'est pas un exemple d'indifférence morale ou de laxisme. La preuve, c'est qu'il lui dit « ne pêche plus ». Il considère donc bien qu'elle a péché. Bien sûr, cette femme est adultère. Bien sûr, ce n'est pas anodin, c'est une question de fidélité. Fidélité à l'autre, fidélité à soi. Et c'est pourquoi la loi de Moïse est si sévère. Et Jésus ne la conteste pas. Et pourtant, malgré les injonctions de la loi, il ne condamne pas. Ce n'est pas non plus une question de magnanimité du juge, c'est simplement qu'il n'y a pas de juge. Je cite, dans l'évangile de Jean, à plusieurs endroits, « Le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. » Et plus loin, « Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qui croit en lui n'est pas jugé. » Et encore, « Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Jésus juge donc comme Dieu le veut et Dieu veut le salut. Les codes des hommes, même si c'est Moïse qui les a reçus, voient Dieu comme un juge impassible alors qu'il donne son Fils pour que les pécheurs vivent. La foi fait sortir de tout contexte de jugement. Elle fait passer de la culpabilité à la responsabilité. Elle fait passer du statut d'objet qui commet des fautes et en attend la rétribution au statut de sujet qui répond à un appel de la vie. D'où le « va et ne pêche pas à partir de maintenant », ce qui est la traduction littérale. Il lui signifie ainsi sa liberté d'action à venir. Sa vie n'a plus à être marquée par le péché et ça devient possible parce qu'elle est au bénéfice de la grâce. Le texte ne dit pas qu'il faut tout tolérer, tout accepter. Il ne se place pas sur le terrain de l'organisation de la société, il se place sur le terrain de ce qui constitue l'existence humaine. Ce n'est pas une affaire judiciaire. Derrière le manteau vertueux de la loi peut se cacher la mauvaise foi, mais c'est une affaire de foi. On n'est pas au tribunal, mais au temple. La réponse de Jésus, c'est qu'au temple, face à Dieu, le pécheur, ce n'est pas tant celui qui transgresse la loi que celui qui la pervertit, qui s'en sert comme d'un instrument de mort quand elle était censée permettre la vie. Finalement, l'évangile de Jean. Il nous dit notre double identité de pécheur et de gracié. Il ne s'agit pas pour Jésus de légitimer l'adultère, certainement pas. Mais ce jour-là, d'une simple phrase, que celui qui est sans péché jette la première pierre, Jésus fait comprendre à tous la puissance de la grâce et ramène chacun à la réalité de la condition humaine que Martin Luther a résumée dans cette maxime célèbre. Simul justus, simul peccator, à la fois injuste pécheur et juste gracié. Et cette grâce reçue est un processus dynamique qui nous appelle à nous mettre en route. Alors, cessons d'appeler cette histoire le récit de la femme adultère. Ce n'est pas le récit de la femme adultère, c'est l'histoire d'une rencontre essentielle, l'histoire de Jésus qui sauve la vie d'une femme et qui la libère de son passé et d'elle-même. Il nous faut donc vivre en nous demandant qui est Jésus pour nous. Est-il un maître enseignant une morale, des préceptes qu'il suffit d'appliquer pour rester fidèle à la loi ? Maître, didascalé, c'est le titre que les pharisiens et les scribes donnent à Jésus, mais probablement de manière hypocrite. La femme devant Jésus emploie elle un autre terme, Seigneur, en grec kurios. Ainsi, ce matin, ce texte nous invite à passer de maître à Seigneur dans notre relation à Jésus le Christ. Il nous invite aussi à passer de la morale et du jugement sur nous-mêmes et sur les autres, au pardon et à la grâce reçue. Une grande nouvelle, c'est que notre salut n'est pas au bout de nos mérites et de nos efforts. Le salut de Dieu est gratuit. Dieu ne te condamne pas, et si lui ne te condamne pas, qui pourrait te condamner ? Si lui te fait confiance, même quand tu n'en es pas digne, qui pourrait t'interdire la confiance ? Si lui continue à t'aimer, quoi qu'il advienne, qui pourrait t'interdire l'amour ? Telle est la promesse de l'Évangile, il n'y en a pas d'autre. Amen.
Amen.
Et je vous propose de prier. Seigneur, ta parole nous redit aujourd'hui que tu es le Dieu de la liberté, le Dieu qui a voulu libérer le peuple d'Israël de l'esclavage au pays d'Égypte, le Dieu qui a libéré la femme adultère du poids de sa culpabilité, le Dieu qui veut nous libérer de nos esclavages quotidiens et de cet esclavage si lourd de croire que tu nous as abandonnés, que nous sommes séparés de toi. Merci Seigneur, parce qu'en Jésus-Christ, tu nous assures de ton amour, tu nous justifies, même si nous sommes injustifiables, tu nous relèves pour prendre part à la vie. Toi qui sais reconnaître l'aimable en chacun de nous, toi qui sais voir la lumière au-delà de nos ombres, parce que tu es aimable et que tu es lumière, nous te louons. Toi qui, même si notre cœur venait à nous condamner, ne nous condamne pas, parce que tu es plus grand que notre cœur et connais toutes choses, nous te louons. Nous te demandons la grâce d'être ces témoins qui ne condamnent pas, mais qui plutôt saluent avec émerveillement autour d'eux et en eux-mêmes la marque de ton œuvre puissante. Que nous ne cédions jamais à la tentation de la violence, de l'oppression, de l'égoïsme individuel ou national. Que jamais le bonheur de la vie n'éteigne en nous la révolte contre ce qui la défigure. Et que jamais le scandale du mal n'efface en nous la louange de la vie. Que l'émerveillement de recevoir la vie comme une grâce n'altère pas nos capacités d'indignation devant l'injustice, mais soutienne en nous la promesse d'un monde meilleur. Que notre foi ne soit jamais sans le doute, ni nos doutes sans la confiance. Que jamais ne soient figés les mots tendresse, plaisir, liberté, confiance, mais qu'ils soient source d'une quête toujours inachevée. Donne-nous de toujours choisir ce qui fait vivre plutôt que ce qui fait souffrir. Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles, donne-nous d'en être les signes, rends-nous constamment appliqués à cette tâche de prolonger ton geste en des actions et des paroles qui rendent ton royaume visible en notre monde, en des instants que nous te prions de multiplier jusqu'à ce que ce règne s'établisse. En effet, le salut de Dieu est gratuit. Telle est la promesse de l'Évangile, et il n'y en a pas d'autre. Amen.
Merci Yann pour ce moment de méditation. Je vous rappelle qu'il y a culte tous les dimanches à 10h30 au temple Varus Saint-Thomas à Chartres. Je vous dis au revoir et à bientôt.